C'est le journal de Radio France Internationale. Et maintenant, place à Pulsan, l'émission de la Société d'Astronomie de Nantes. L'émission de la SAN. Une émission de la Société d'Astronomie de Nantes à la découverte de l'univers. Alors Pulsan, pourquoi Pulsan? Voici donc cette première édition de l'émission de la Société d'Astronomie de Nantes. Mais Pulsan, ça vient de Pulsar. C'était trop tentant de remplacer SAR par SAN et de mettre ainsi les initiales de la Société d'Astronomie de Nantes dans le titre de cette nouvelle émission. Dans Pulsan, il y avait aussi pulsation, impulsion, et puis on y met un peu ce qu'on veut. Mais l'idée essentielle, c'est que l'univers bouge, que la science bouge et que la SAN bouge aussi. Les pulsars, ça pulse, ça vibre, ça rayonne, comme la SAN. Alors pourquoi cette émission? Un petit historique rapide. C'était un peu l'idée d'Alternante, car depuis que la SAN participe au magazine d'Alternante pour y présenter ses conférences publiques, on avait tous envie d'aller un petit peu plus loin et de profiter du choix des thèmes abordés lors de ces conférences pour explorer le monde de l'astronomie et des sciences, et les sciences qui s'y rapportent. Et de partir ensemble à la découverte de l'univers à travers les connaissances les plus actuelles. Et peut-être aussi de toucher une population d'astronomes amateurs, sinon au moins, du moins, d'amateurs d'astronomie, et ils sont nombreux. Enfin, si on pouvait s'intéresser à la population dans son ensemble, ça serait vraiment génial, car l'astronomie, c'est pur bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on va vous proposer dans cette émission? Alors, tout d'abord, il faut préciser que c'est en direct, hein. On a découpé cette émission en trois parties principales. La première va s'intéresser au sujet de la dernière conférence de la SAN. Elle s'intitulera « De retour 2 ». Et aujourd'hui, on sera de retour de la conférence du 18 novembre dernier et on parlera de micro-lentilles gravitationnelles. La deuxième partie abordera le sujet de la prochaine conférence et s'appelle « En route vers ». Et vers quoi sommes-nous en route aujourd'hui ? Vers les confins de l'univers, on ira au bout du monde et on parlera des galaxies de l'univers lointain. Enfin, la troisième partie, plus courte, sera consacrée à l'activité de la Société d'Astronomie de Nantes. Aujourd'hui, nous nous contenterons de présenter la SAN, sa vie trépidante, ses projets. Au cours des prochaines émissions, nous ferons un zoom à chaque fois sur l'un de ces champs d'activité. Cette troisième partie, ça sera l'occasion de parler un peu plus précisément de l'activité d'astronomie amateur et de toute la richesse de ce loisir, pourrait-on dire. Alors juste avant cette dernière partie d'émission, il y aura une courte séquence Actu Astro afin de vous donner les dernières et véritables nouvelles du ciel, d'une part, hein, et d'autre part, de vous donner les dernières infos du monde. Et vous savez que l'actualité en ce moment est fort riche, surtout l'actualité en astronautique. Je ne vous en dis pas plus, ça sera pour tout à l'heure. Alors les acteurs de cette émission, eh bien, il faut savoir qu'elle est entièrement réalisée et animé par les membres de la Société d'Astronomie de Nantes, y compris pour la technique avec Cyril et Raphaël, mais on vous présentera tout le monde à la fin de cette émission. Je vous présenterai quand même les animateurs de chaque partie, à chaque fois, pour chaque partie. Hein. Et voilà, et maintenant, sans plus attendre, on enchaîne sur la première partie de cette émission, de retour du monde des lentilles gravitationnelles. Alors c'était le jeudi 18 novembre dernier, à la salle Bretagne à Nantes. Nous recevions Alain Milstein pour un sujet difficile mais passionnant, celui des micro-lentilles gravitationnelles. Alors pour en parler avec nous ce soir, Olivier Fortineau et Benjamin Massard, qui furent littéralement emballés, enthousiasmés, hein, c'est plus, oui, plus français, par la conférence. Et je sens qu'ils vont avoir beaucoup de choses à nous dire. Je précise encore qu'au cours de ce direct, nous diffuserons des extraits de l'interview d'Alain Milstein réalisée par Benjamin Massard et moi-même. Oui, je sais que tu piaffes d'impatience, Benjamin. Alors, c'est toi qui vas commencer. Qui est Alain Milstein?
Oui, alors Alain Milstein, c'est un physicien qui travaille au CEA de Saclay Et à la base, c'est un physicien des particules. C'est-à-dire qu'il a, il a l'habitude de sonder l'infiniment petit, le cœur des atomes. Et depuis une dizaine d'années, il a changé de sujet. Il a eu envie de s'intéresser à l'astronomie. Et il a formé un groupe avec quelques collègues de son laboratoire pour former et se lancer dans une mission qui s'appelle EROS, qui veut dire expérience de recherche d'objets sombres. Et cette mission les a amenés depuis 1993 à traquer dans le voisinage de notre galaxie des objets un peu particuliers qu'on appelle des micro-lentilles gravitationnelles.
Alors Benjamin, là, je t'interromps tout de suite. Avant de rentrer un peu plus sur le fond du sujet, est-ce que tu pourrais nous parler et nous expliquer ce que c'est qu'une micro-lentille gravitationnelle?
Alors, avant même de parler des micro-lentilles gravitationnelles, on va aborder le concept de lentille gravitationnelle. Dans le mot lentille, c'est pas de la diététique, hein, il s'agit bien d'astronomie, on fait référence à des objets qui traitent d'optique. Et pour ça, on va faire un petit rappel historique. Il faut savoir que derrière le mot lentille, il y a la notion de déviation de lumière. Et ça, des déviations de lumière, on en avait déjà prédit avec dans le concept de la bonne vieille mécanique de Newton qui date du XVIIe siècle. Et le phénomène de déviation était connu. Et c'est vrai que des phénomènes comme ceux-là, on peut en observer dans tous les jours, par exemple sur Terre, quand la route est chauffée par le Soleil, on a des phénomènes de déviation lumineuse. Alors, la différence, c'est que dans le cas des lentilles gravitationnelles, on est complètement dans le vide.
Bah justement, dans ma tête, dans le vide, donc il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'air, hein, on est dans le vide complet. Je pensais que la lumière allait en ligne droite dans le vide. Et là, tu nous parles de déviation.
C'est vrai que généralement, on a l'impression que la lumière peut aller en ligne droite. Mais ce qu'a fait Einstein au début du XXe siècle, et dans la théorie de la relativité générale, c'est que il a prouvé qu'au voisinage d'un corps massif, eh bien, la lumière, même si elle est dans le vide, même s'il n'y a pas d'atmosphère, eh bien, elle est déviée.
Mais il y a un moyen d'observer ça ?
Alors oui, il y a un moyen, ça existe. En 1912, Einstein avait fait un calcul. Il s'était posé la question de savoir dans quelle mesure un rayon qui se baladait en ligne droite dans le vide allait être dévié. Il avait dit l'angle de déviation, il est bien trop petit, on pourra jamais l'observer. Et en 1919, un astronome anglais, Eddington, a saisi une occasion rêvée, c'était pendant une éclipse, hein, exacte, une éclipse du Soleil, une éclipse totale, le même phénomène qui a eu lieu au mois d'août, et il a observé une étoile qui était bien plus loin que le Soleil, mais proche du bord du Soleil. Et il a pris une photo à ce moment-là. Il pouvait la voir en plein jour, parce qu'on était au moment d'une éclipse totale, et le Soleil était complètement caché par la Lune. Il a pris sa photo, et il l'a comparée avec la photo de la même étoile, mais prise à un autre moment où le Soleil n'était pas à côté. Il s'est aperçu que l'étoile n'était pas au même endroit. Et c'était la première mise en évidence de l'existence du phénomène de déviation par la présence d'une masse, à savoir celle du Soleil.
Ouais, alors, donc si je résume un peu, là, on observe une source lumineuse, donc tu as pris l'exemple d'une étoile, et puis entre cette source lumineuse et nous, pauvres observateurs sur la Terre, on observe donc la lumière de cette étoile, et si on interpose entre sa lumière et nous une masse importante, on a donc déviation de la lumière. Alors le point important, c'est bien la masse qu'on interpose entre cette lumière qui est l'étoile, qui vient de l'étoile, et nous-mêmes.
Oui, c'est ça. Et donc c'est ça le principe. C'est bien parce que il y a une masse, présence d'une masse même dans le vide, qui aura déviation de lumière, mais dans un angle suffisamment faible.
Alors on pourrait extrapoler un peu plus. Il suffirait d'augmenter la masse pour augmenter l'angle de déviation.
Et c'est ça le principe des lentilles gravitationnelles.
Si moi je mets une masse très très importante entre cette source et moi-même, je peux peut-être même avoir une déviation qui est suffisamment importante pour voir une étoile qui serait cachée derrière cette masse.
Tout à fait. Et c'est le principe des lentilles gravitationnelles qui met en jeu cette fois-ci non plus des masses comme celle du Soleil ou celle d'une étoile banale, mais là on parle d'amas de galaxies. Et c'est plus une masse solaire, mais des centaines de milliards de fois la masse du Soleil.
Donc parce qu'une une galaxie, c'est des centaines de milliers d'étoiles.
Une galaxie, voire même plusieurs galaxies, puisque là on parle d'amas de galaxies.
Donc des milliards d'étoiles.
Exactement. Et ce sont des phénomènes que l'on observe seulement au fin fond de l'univers, mais le principe est le même, c'est-à-dire que très très loin, on a un objet, une galaxie en l'occurrence, qui émet de la lumière dans notre direction. Mais cette lumière-là, elle est interceptée parce qu'entre la source de lumière et nous, observateurs, il y a l'amas de galaxies qui normalement masque la source lumineuse.
Il faut regarder très loin tout simplement parce qu'il faut avoir suffisamment de recul pour voir des amas de galaxies, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et surtout, les phénomènes dont on va parler de l'antigravitationnel sont des phénomènes relativement faibles en lumière qui nécessitent de gros moyens et des télescopes qui sont très grands et qui vont voir très très loin dans l'univers. Et justement, normalement, la source lumineuse devant être cachée par l'amas de galaxies, le fait qu'il y ait une masse énorme sur le chemin de la lumière, la masse va dévier la lumière qui va contourner l'amas de galaxies et revenir vers nous, observateurs. Et c'est ce qui fait que c'est là qu'a lieu le phénomène de l'antigravitationnel et qui fait que bien qu'une source est normalement cachée par l'amas de galaxies, on va la voir. Alors on voit des phénomènes assez bizarres comme ce qu'on appelle des arcs gravitationnels et on voit également un phénomène d'amplification de la lumière.
Donc ça c'est une observation complètement indirecte de la source qu'on cherche à observer en fait. Il y a un objet qui est devant lui. Mais cet objet là, donc tu nous parles de masses qui sont phénoménales, hein, plusieurs milliards d'étoiles, donc ça crée des déviations très importantes de la lumière. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies qui existent depuis quelques années, et puis la construction de télescopes, notamment le télescope spatial Hubble ou le télescope VLT qui est en train de se construire, le télescope européen qui sera donc un monstre pour l'observation, est-ce qu'on peut observer des angles un peu plus faibles peut-être maintenant ?
Alors les angles, c'est vrai qu'on pourrait se dire avec toute cette avancée technologique, les angles, on va avoir des angles, des déviations de lumière de plus en plus petites. Mais c'est déjà tout petit, hein. Les angles dont on parle, c'est de la seconde d'arc. Hein. La seconde d'arc, c'est... On prend faire un tour complet, c'est faire 360 degrés sur soi-même. On divise un tour en 360 et on a 1 degré, on a un angle de 1 degré. Maintenant, cet angle de 1 degré, on le divise encore en 3600 petites parties. Et là, on a une seconde d'arc. Donc c'est un angle qui est minuscule. Et dans le cas des lentilles gravitationnelles, on parle de quelques dizaines de secondes d'arc. Mais là, on descend dans des déviations qui sont bien plus petites. Et c'est ce qui justifie le terme de micro-lentille gravitationnelle. C'est bien parce qu'on a également des angles tout petits. Et la différence avec les lentilles gravitationnelles, c'est que les micro-lentilles représentent exactement le même phénomène, mais les angles sont tout petits. Donc je vais laisser la parole à Alain Michetein, que j'ai interviewé le 18 novembre avant sa conférence, et qui va nous expliquer plus en détail le principe des micro-lentilles gravitationnelles.
Les lentilles gravitationnelles, donc provoquées par des galaxies, provoquent des déviations importantes. Les micro-lentilles gravitationnelles, elles, provoquent des déviations absolument minuscules, tellement minuscules qu'elles ne sont pas, à l'heure actuelle, détectables. On ne peut pas voir le déplacement provoqué sur une étoile qui est dont la lumière est défléchie par un astre quelconque qui passe devant lui. On parle là d'angles qui sont de 1 millième ou de 1 dix millième de seconde d'arc, donc les secondes d'arc dont nous avons parlé il y a un instant. En réalité, on n'est pas capable, on le sera bientôt, hein. C'est l'affaire de 10 ou 20 ans d'être capable de mesurer des déflexions aussi minuscules. Pour ça, il faut aller dans l'espace, avoir de faire de l'astrométrie par des méthodes d'interférométrie. Mais il y a un projet de satellite qui doit être lancé à la fin de la première décennie du prochain siècle. Et normalement, on devrait être capable de faire ça prochainement. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous ne mesurons pas la déflexion, mais nous mesurons le fait que tous ces astres sont en mouvement. La lentille, l'astre qui va faire lentille, qui va faire effet de lentille gravitationnelle, de micro-lentille, passe par hasard en alignement avec une étoile hors de notre galaxie, une étoile extragalactique, par exemple dans la galaxie la plus proche de nous, le grand nuage de Magellan. Quand l'alignement est suffisamment précis, et je vous rappelle qu'il s'agit là de 1 dix millième de seconde d'arc, donc c'est même un alignement vraiment très précis, eh bien, au fur et à mesure que la lentille se rapproche de l'étoile lointaine, apparemment, pour l'observateur terrestre, voit sa luminosité augmenter d'une manière qui est calculable, prévisible. Et l'augmentation, dans la plupart des cas, est faible, mettons quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents. Mais dans certains cas, pas si rare que ça finalement, peut atteindre des facteurs très importants, 2, 5, 10, 40. On a déjà vu... Et j'en parle dans la conférence, des amplifications d'un facteur 80, par exemple, qui ont déjà été observées à ce jour. Et donc, ce que nous faisons, en fait, c'est que nous mesurons la variété. Nous ne détectons pas du tout directement l'astre qui fait lentille. Nous observons l'étoile lointaine, influencée par le passage de l'astre sombre devant elle. Et nous mesurons la variation de la luminosité de l'étoile apparente, hein, c'est pas une variation intrinsèque, ça n'est pas une étoile variable, c'est une étoile complètement ordinaire, mais à cause de la déflexion de la lumière, à cause de l'effet de loupe de la micro-lentille gravitationnelle, eh bien la luminosité varie avec le temps. Et c'est ça que nous mesurons, et à partir de la durée de cette augmentation de luminosité et redescente subséquente, on est capable d'avoir une information partielle sur la masse de la lentille, et c'est ça qui nous intéresse.
D'accord, donc là je reprends la parole et donc on comprend bien donc ce que Alain Michetein il essaye de nous expliquer en tant qu'astrophysicien, c'est avoir des informations non pas sur sa source lumineuse qu'il observe, c'est-à-dire l'étoile, mais des informations sur l'objet qui passe devant. Mais alors, il nous parle de deux choses. Lui, il observe pas une déviation de lumière ou déflexion, le terme qu'il emploie, de lumière, pour cette étoile. Il observe une variation lumineuse, une augmentation puis une diminution de sa lumière. Et puis il parle également de corps sombre qui fait effet de lentilles, de micro-lentilles qui passent devant. Alors Benjamin, est-ce que tu peux d'abord nous expliquer pourquoi est-ce que lui, il n'observe pas une déviation de lumière, mais une variation de lumière ?
Alors s'il n'observe pas un angle de déviation, c'est tout simplement parce que cet angle-là est bien trop petit et que les technologies actuelles ne permettent pas de le voir, de le percevoir. Alors, et pour comprendre pourquoi est-ce qu'on observe une variation de lumière, eh bien, il faut s'imaginer la source lumineuse, l'étoile en question, dans le cas où il n'y a pas phénomène de lentille gravitationnelle. Elle est toute seule dans l'espace, elle envoie de la lumière dans toutes les directions, et nous interceptons une partie des rayons lumineux qu'elle émet. Mais il y en a une grande partie que l'on ne reçoit pas, qui nous passe à côté, au-dessus et en dessous. Maintenant, imaginons qu'un corps massif, qui va jouer le rôle de la micro-lentille gravitationnelle, vient à passer sur le chemin lumineux qui nous sépare de l'étoile en question. Eh bien, on va avoir un phénomène de déflexion de la lumière, c'est-à-dire que certains rayons lumineux qui normalement ne devraient pas nous arriver sur Terre vont être déviés par la micro-lentille gravitationnelle, par le corps massif, et vont être ramenés dans notre direction. Ce qui fait que, bien que la micro-lentille, bien que l'objet massif n'éclipse pas l'étoile en question, elle va passer juste au-dessus, juste en dessous, on continue à percevoir la lumière initiale de l'étoile, mais on capte en plus des rayons lumineux qu'on n'aurait pas dû voir, qu'on n'aurait jamais dû voir autrement. Et c'est pour ça qu'on a une augmentation de lumière. Alors pourquoi variation ? Bah tout simplement parce que dans l'univers, tout bouge. La Terre tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour du centre de la galaxie, l'étoile que l'on observe bouge également, et le corps massif qui fait micro-lentille gravitationnelle bouge également. Et c'est parce que, justement, il va passer devant et va intercepter une partie des rayons lumineux pour les dévier et les ramener dans notre direction, qu'on a un phénomène d'amplification lumineuse variable dans le temps. Et c'est ça, justement, la notion de variation de lumière.
Alors, si je comprends bien, c'est un petit peu comme si je prenais une loupe au bout de ma main, là, au bout de mon bras, que je partais, là, que je sortais dehors, que j'observais une étoile très brillante. Je prendrais ma loupe et je la faisais doucement passer devant l'étoile. Avant que ma loupe passe sur l'étoile, j'aurais donc une lumière classique venant de cette étoile-là. Lorsque ma loupe serait devant l'étoile, j'aurais une augmentation de lumière, puisque ma loupe, c'est un peu l'objectif de la loupe, c'est une lentille d'augmenter sa lumière. Et puis lorsque la loupe serait passée, l'étoile reprendrait sa lumière, son intensité lumineuse classique. Oui. Mais alors, en fait, si je passe mon bras très très vite et si je passe donc ma loupe très très vite devant cette étoile, je vais avoir une augmentation rapide puis une chute très rapide de la lumière. Donc je vais pouvoir inversement avoir une information sur ma loupe, le passage de ma loupe en observant la lumière de cette étoile. Et puis si j'ai une loupe qui est toute petite, je vais avoir une faible augmentation de lumière. Puis si j'ai une loupe qui est très très grosse de par son diamètre, je vais avoir une augmentation de lumière beaucoup plus importante. Donc on comprend bien qu'en observant la lumière de cette étoile, on arrive non pas à avoir une information sur cette étoile, c'est pas ce qui nous intéresse, mais sur l'objet qui passe devant. C'est-à-dire pour moi, dans mon exemple, la loupe. Et donc pour Alain Einstein, la micro-lentille gravitationnelle qui passe devant.
Si je comprends bien, c'est une loupe qui sert à regarder les loupes.
Exactement.
Exactement, ouais. Et l'information qu'on tire de l'observation de l'étoile, c'est une information sur la masse de l'objet qui fait micro-lentille.
Alors justement, Alain Einstein, c'était le deuxième point que j'avais pas trop compris sur son intervention, il nous parle de corps sombre. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce corps sombre-là ?
Alors c'est vrai, quand j'ai cité l'exemple des lentilles gravitationnelles, on est parti du Soleil au moment de l'éclipse en 1919, c'est un corps lumineux. Ensuite on a parlé des amas de galaxies qui sont des ensembles d'étoiles, donc encore des corps lumineux. Et là, dans le cas des micro-lentilles gravitationnelles, on a plus affaire à des corps qui brillent. Ils n'émettent aucune lumière, et c'est ça. Et en fait, ce qu'il y a sous-jacent, c'est l'objectif même de la mission d'Eros et de tous les chercheurs qui travaillent sur le sujet des micro-lentilles gravitationnelles. C'est qu'en fait, dans notre galaxie, lorsque on a des moyens directs d'évaluer la masse de la galaxie, on s'aperçoit qu'en fait, eh bien 99% de cette masse-là est invisible par nos télescopes, que ce soit dans le rayonnement visible ou infrarouge ou ultraviolet. Et donc on ne comprend pas de quoi est faite cette masse manquante. Et l'une des hypothèses qui était noble, c'était de dire que de toute façon, cette masse manquante, elle est constituée de corps que l'on connaît très bien, comme des grosses planètes, comme Jupiter par exemple dans notre système solaire, ou des planètes encore un peu plus grosses, ou jusqu'à des étoiles ratées, mais qui... Ratées pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas suffisamment massives pour émettre leur propre lumière. On parle là de naines brunes ou de naines rouges. Bon. Et donc l'expérience menée par Alain Einstein et ses collègues, c'est d'essayer d'observer la présence de tels corps, sombres par définition, par un phénomène de micro-lentille gravitationnelle.
Alors sombre et compact.
Sombre et compact. Mais alors l'enjeu est de taille, parce que les objets en question sont bien plus petits que les amas de galaxies dont on a parlé tout à l'heure, et ce qui rend déjà leur observation difficile. Mais en plus, pour observer le phénomène de microlentilles gravitationnelles, il faut un alignement quasiment parfait entre la source, l'objet qui fait microlentille, et l'observateur. Et en plus, c'est un phénomène rare, comme va nous l'expliquer Alain Milstein.
Ce qui avait empêché jusqu'au début des années 90 de lancer des tels programmes de recherche, c'était le fait que on s'attendait, par exemple, si la masse sombre de la galaxie, c'est-à-dire la quantité de matière dont nous savons qu'elle est là, mais que nous ne voyons pas briller sous forme d'étoiles ou que nous ne voyons pas sous forme de gaz ou de poussière, si cette masse sombre de la galaxie était sous forme de tels objets compacts, à ce moment-là, le phénomène a une probabilité approximativement de 1 chance sur 1 million, c'est-à-dire par an. C'est-à-dire que si vous observez 1 million d'étoiles pendant 1 an, mais il faut vraiment les suivre tous les jours, vous attendez à voir une étoile présenter le phénomène avec une intensité suffisante pour être détectable sur nos télescopes terrestres. Et donc la clé, à cause de la rareté du phénomène, c'est de surveiller le maximum d'étoiles possible. Nous avons commencé avec 3 millions d'étoiles en 90 et aujourd'hui nous en sommes à 30. Nous surveillons quasiment journellement 30 millions d'étoiles dans le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan. Et ce qui est crucial là, c'est pas du tout d'avoir un gros télescope. Vous parliez de moyens techniques très performants, etc. En fait, nous avons à l'Observatoire européen du Chili, nous avons le plus petit télescope en opération sur le site. C'est un malheureux télescope de 1 mètre de diamètre. Mais l'important pour nous, c'est d'avoir un télescope qui soit disponible 365 jours par an pendant plusieurs années de suite.
Et ça, vous l'avez obtenu?
Et ça, nous l'avons obtenu. En fait, nous l'avons obtenu parce que on a eu la chance de trouver un télescope qui avait été construit par les observatoires de Lyon et Marseille et qui était en caisse parce qu'il avait été monté sur un pic et puis finalement il ne servait plus, il avait été démonté. Il était en caisse depuis plusieurs années. On l'a réadapté, remis au goût du jour et surtout nous avons construit derrière des caméras CCD assez gigantesques puisqu'elles couvrent 1 degré carré du ciel. Donc c'est un peu plus, ce sont des CCD qui totalisent 32 millions de pixels pour 1 degré carré. Donc si vous comparez aux appareils commerciaux numériques actuels de photographie numérique, ça fait 100 fois plus de pixels. Donc vous voyez la résolution supplémentaire que nous avons.
Et 1 degré carré par rapport à la Lune, par exemple, c'est grand comment, que ça représente quelle surface dans le ciel ça?
La Lune fait un petit peu moins d'un quart de degré carré, donc c'est mettons 5 ou 6 fois plus grand que la surface de la Lune. Et la totalité du ciel représente 40 000 degrés carrés. Voilà.
Alors, en tant qu'astronome amateur, là je suis un peu surpris. Hein. Il dit qu'ils arrivent à observer 30 millions d'étoiles d'un coup.
Oui, il vient de l'expliquer. En fait, ils utilisent des capteurs qui sont très grands, type ceux des appareils numériques, des appareils photonumériques. Mais en plus, derrière, il y a tout un traitement informatique qui permet en fait de traiter chacune des étoiles une par une, après les avoir prises en photo.
Alors, quand même, 30 millions d'étoiles, étant donné que le phénomène est très rare, puisque c'est deux petits corps qui doivent passer l'un sur l'autre, ils doivent passer leur nuit entière à observer, ces astronomes.
C'est ce qu'ils ont la chance de faire au Chili, puisqu'ils ont un télescope à disposition toute l'année. Et en fait, l'équipe du projet EROS observe tout au long de l'année, mais se relaie en fait à l'observatoire pour pouvoir surveiller ces 30 millions d'étoiles en permanence tout au long de l'année.
C'est une équipe là, ils ont un effectif de combien quand même?
Je vais laisser Alain Milstein répondre à ta question.
Je dirais une trentaine de personnes à peu près. L'essentiel venant de mon laboratoire du commissariat à l'énergie atomique à Saclay, mais il y a deux très importants groupes également à l'Institut d'astrophysique de Paris et au laboratoire de l'accélérateur linéaire d'Orsay, avec plusieurs collaborateurs à Marseille aussi, aux États-Unis, et j'espère que j'oublie personne. Et donc ça fait à peu près une trentaine de personnes. C'est vraiment un peu un minimum pour assurer des observations en permanence 365 jours par an au Chili, hein, parce que on va observer là-bas, chaque personne va observer là-bas à tour de rôle pendant 2 à 3 semaines d'affilée. C'est même une charge de travail assez lourde, et donc ça serait assez difficile pour nous de tourner à moins de 30 personnes. Mais à l'échelle de la planète, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup plus que 100-150 personnes qui travaillent sur le sujet. Il y a peut-être 4-5 groupes qui sont vraiment au niveau international compétitif, et il n'y en a pour l'instant que 2 qui s'intéressent au problème de la matière sombre. C'est notre groupe EROS, expérience de recherche d'objets sombres, et le groupe américain qui a lui pris le nom de Macho.
Alors donc deux groupes, hein, Eros et puis Macho, les Américains, Eros les Français, mais est-ce qu'ils travaillent vraiment ensemble ou alors est-ce qu'il y a concurrence au niveau de leurs résultats ?
À ce niveau-là, il ne peut pas y avoir de concurrence, puisque l'intérêt c'est de vérifier une théorie, et donc tous les groupes internationaux qui travaillent sur le sujet mettent en commun leurs résultats pour les confronter. Et dernièrement, certains phénomènes de microlentilles gravitationnelles étaient tellement courts que les observatoires sont disséminés un peu partout dans le monde, et un seul observatoire ne pouvait pas construire toute la courbe à lui tout seul. Ils étaient obligés, les observateurs étaient obligés de se relayer pour construire la courbe de lumière, la courbe de variation de lumière, ensemble. Et ça a donné lieu, d'ailleurs, à une publication de résultats sur cette courbe-là, où il y avait plusieurs dizaines de signatures internationales.
Alors pour conclure un peu là, donc on a vu ce que c'était qu'une lentille gravitationnelle, une micro-lentille gravitationnelle, on a vu que la lentille qui passait donc devant l'étoile, c'était la masse sombre et que c'était vraiment l'objectif de leur recherche. Mais alors, au niveau des résultats maintenant, qu'est-ce que ça donne comme résultat leur observation ?
Eh bien j'ai demandé à Alan Milstein si les scientifiques avaient aujourd'hui une réponse à donner au problème de la masse sombre de notre galaxie, et il va nous répondre.
En réalité, nous n'avons pas encore de réponse définitive. Ce qui est amusant, c'est comme toujours en recherche, hein. En 1994, quand nous avons trouvé les premières micro-lentilles, et que nous les avons présentées dans les conférences internationales, on était sûr, on se dit « Ah, l'an prochain, on aura la réponse définitive à la question ». Et puis aujourd'hui, j'étais à une conférence au mois de septembre, à Paris, et à cette conférence, on était de nouveau persuadés que l'an prochain, nous aurions la réponse. Donc, néanmoins, il faut pas voir ça comme un échec, hein. En réalité, nous avons vraiment énormément appris de ces recherches de micro-lentilles gravitationnelles. D'ailleurs, il y a des retombées innombrables qui n'étaient pas du tout prévues à l'origine quand nous avons commencé ces projets. Et néanmoins, malgré ce que je viens de vous dire, qu'il y a 5 ans, on était sûr qu'on aurait la réponse dans un an, eh bien, je vous dis, on aura, je pense, la réponse avant la fin de notre expérience Eros, qui est prévue pour 2002, donc d'ici 3 ans.
Alors, en tous les cas, pour l'instant, bien que le groupe Eros et Macho travaillent en coopération, il n'en reste pas moins qu'ils ont des résultats différents. Depuis le début des observations, depuis 1993, le groupe français a répertorié environ 6 phénomènes de microlentilles gravitationnelles, alors que le groupe américain, lui, en a comptabilisé 14. Donc il y a une différence où il va falloir résoudre ce problème-là. Quoi qu'il en soit, la conclusion des Français, provisoire, c'est que pour l'ensemble de la matière sombre qu'il y aurait dans notre galaxie, la contribution de corps de la taille d'une grosse planète, par exemple, est inférieure à 10%. C'est pour l'instant tout ce qu'ils peuvent dire.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup Benjamin et Olivier. On vous donne rendez-vous dans 3 minutes pour En route vers les galaxies de l'univers lointain, mais auparavant, une petite pause musicale. Maintenant que vous savez tout sur les micro-lentilles gravitationnelles, nous allons nous mettre en route au cours de cette deuxième partie de Pulsan, l'émission de la Société d'Astronomie de Nantes, en route vers les galaxies de l'univers lointain. Tel sera d'ailleurs le thème de la prochaine conférence de la SAN qui aura lieu vendredi prochain, le 10 décembre, à la salle Le Bretagne à Nantes. Elle sera prononcée par François Hamer, astronome à l'Observatoire de Meudon, chercheur au département d'astronomie extragalactique et de cosmologie. C'est dire s'il connaît l'univers et sa structure. François Hamer est le principal investigateur du projet GIRAFE, sont des initiales, hein, ce projet qui est impliqué dans le développement du spectrographe qui sera installé au VLT, le Very Large Telescope, en anglais, très grand télescope de l'Observatoire européen Austral, au Chili. Vous savez que l'on construit des télescopes de plus en plus grands afin de remonter toujours plus loin dans le passé de l'univers. C'est pour ça que François Hamer s'intéresse aux galaxies du bout du monde, celles qui nous montrent un univers quasi dans sa préhistoire. Bien entendu, ça c'est le sujet de la conférence, mais auparavant, on va vous parler de galaxies, ce que c'est, où elles sont, à quelle distance, etc. Et pour nous en parler, Frédéric Brion, grand observateur du ciel, devant le grand Mamamouchi, et Christian Scotta. Alors Frédéric, les galaxies, tout le monde sans doute connaît le terme, mais que sont-elles précisément,
hein ? Des galaxies, ce sont tout simplement des étoiles, des grands regroupements d'étoiles. Par exemple, la Voie lactée, notre galaxie, contient 100 à 200 milliards d'étoiles, donc c'est vraiment des chiffres très prodigieux. Bon, il y a des étoiles, il y a aussi des gaz, du gaz. Bon, ça dépend un peu de la forme des galaxies. Et ces formes de galaxies, il y en a, disons, de différentes catégories. Premièrement, on va rencontrer ce qu'on appelle les galaxies elliptiques, qui ont des formes d'ellipses, comme leur nom l'indique, plus ou moins allongées.
C'est des formes presque de cigares, en fait, hein.
pas encore les cigares. On en parlera un peu après.
Les cigares, c'est après.
Bon. On en parlera un peu après sur la catégorie suivante. Donc, ces elliptiques, c'est des galaxies avec quasiment que des étoiles vieilles, car il n'y a pas beaucoup de gaz, il n'y en a même quasiment pas du tout dans ces galaxies.
Les vieilles n'ont pas beaucoup de gaz.
Voilà. On sait que le gaz est là pour la formation des étoiles. Donc, si. Malheureusement, je serais tenté de dire, s'il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'étoiles. Du moins, il n'y a pas de nouvelles étoiles.
Oui, parce que voilà. Vous allez nous expliquer peut-être que les étoiles naissent dans les grands nuages de gaz, hein, ce qu'on appelle les nébuleuses.
Voilà, ce qu'on appelle les nébuleuses et qu'on voit couramment dans d'autres types de galaxies. Alors ça, c'est le premier type de galaxies, les galaxies elliptiques, il y en a à peu près 10 à 15% dans l'univers. Bon, autrement, après, nous rencontrons ce qu'on appelle les lenticulaires, les fameuses, peut-être, galaxies cigares.
En forme de cigare.
Voilà.
Celles qui émettent de la fumée.
Peut-être, on n'en a pas encore détecté. Bon, ce sont des galaxies, disons, un peu plus allongées que les elliptiques et qui annoncent un peu la catégorie suivante, qui sont les fameuses galaxies spirales. Alors, ces lenticulaires...
Dont fait partie, pardon, je te coupe, hein, dont fait partie la Voie lactée.
Fait partie la Voie lactée, bien sûr. Donc, ces lenticulaires, il y en a à peu près 20% dans l'univers. Alors, après, nous rencontrons bien sûr ce qu'on appelle les galaxies spirales. Ça, c'est la plus grosse catégorie, disons, de galaxies qu'on peut rencontrer dans l'univers. Il y en a à peu près 60% dans l'univers.
Alors là, j'ai commis une erreur. Hein. J'ai dit tout à l'heure dont fait partie la Voie lactée, mais en fait, la Voie lactée fait partie des galaxies spirales.
Voilà, c'est une galaxie spirale. C'est une galaxie spirale. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces galaxies ? Bon, d'abord, un petit noyau central, un bulbe, où il y a des étoiles assez vieilles, là. Et autour de ce bulbe, il y a le fameux disque, où là, on va avoir les fameux bras spiraux. Donc là, c'est dans ces bras spiraux qu'il y a beaucoup de gaz, et c'est là qu'il y a aussi des étoiles très jeunes. Alors, après ces galaxies spirales, il reste quand même une dernière petite catégorie de galaxies, qui sont les galaxies irrégulières. Alors, comme leur nom l'indique, elles n'ont pas vraiment de forme, elles sont un peu chaotiques. Y a beaucoup de gaz dans ces galaxies et donc beaucoup, là aussi, d'étoiles jeunes. Donc ça, c'est la dernière tranche de galaxies. Il y en a à peu près 3 à 5% dans l'univers. Donc c'est vraiment la petite tranche de galaxies. Alors, on parle de galaxies, mais il serait peut-être aussi intéressant de parler de taille de galaxies. Alors, vous citez peut-être un exemple marquant. On parlait tout simplement de notre galaxie. La Voie lactée. Alors, on disait tout à l'heure que c'était une galaxie spirale. Cette galaxie, quelle est sa taille réellement ? Bon, il faut imaginer quelque chose de très plat, un disque très plat, qui aura une épaisseur d'à peu près 2000 à 10000 années-lumière, sachant que l'année-lumière est bien sûr la distance parcourue par la lumière en une année.
300 000 km à la seconde.
Voilà, sachant qu'elle va...
C'est combien de kilomètres, ça ?
Oh, ça en fait beaucoup.
10 000 milliards, hein, je crois.
Quelque chose comme ça.
10 000 milliards de kilomètres, une année-lumière. Et il y en a donc 10 à 20 000 en épaisseur.
2 à 10 000 en épaisseur. Ouais. Et par contre, c'est très très long. Il y a 100 000 années-lumière sur la longueur.
Ce qui veut dire, en clair aussi, que la lumière va mettre 100 000 ans à traverser notre galaxie.
Voilà.
Je peux encore dire quelque chose, parce que la Voie lactée, tout le monde connaît le terme, parce que quand on regarde dans le ciel, on voit cette traînée blanchâtre, en fait, c'est simplement la trace de l'épaisseur de notre galaxie dans le ciel.
En réalité, c'est cela. Ouais. Voilà. Alors, ces galaxies, bon, elles sont de taille différente et elles se répartissent un peu comme les étoiles dans une galaxie, justement, en amas. Alors, il y a un amas qui est très connu, c'est ce qu'on appelle le groupe local. Le groupe local, c'est tout simplement l'amas dont fait partie la Voie lactée, notre galaxie. Alors, cet amas, il est, disons, dans un volume sphérique d'à peu près 3 millions d'années-lumière. Et dans cet amas, on retrouve les galaxies les plus connues qui sont observables dans le ciel. Je pense tout particulièrement à la galaxie d'Andromède. Bon, là, c'est...
Qui est dans la constellation du même nom.
Voilà, qui est très facilement observable en automne. Elle est au zénith. Et si vous observez, par exemple, en campagne, vous voyez très bien cette fine bande...
À l'œil nu, hein.
À l'œil nu, c'est visible à l'œil nu. Ouais. Et avec des jumelles, c'est un vrai plaisir.
Et elle est, rappelez-le, à 2 millions.
2,4 millions d'années-lumière. Donc elle est, disons, même assez loin par rapport au volume englobé par le groupe local. Mais c'est l'une des plus grosses, c'est même la plus grosse, car elle est encore plus longue que notre Voie lactée. Elle fait 125 000 années-lumière. par rapport aux 100 000 de notre Voie lactée.
Voilà, et elle contient, je crois, 200 milliards.
Oui, à peu près, oui. Elle est quasiment aussi grosse, elle est même plus grosse que notre Voie lactée. Alors, ça, c'est l'une des galaxies du groupe local. Il y a aussi les deux fameux nuages de Magellan. Alors, pourquoi les appeler nuages de Magellan? Sans doute, car c'est Magellan qui a été le premier à les noter dans l'hémisphère austral.
Parce que ça ressemble à des nuages qu'on verrait en plein.
Voilà. Voilà. Quand, par exemple, quand vous regardez la Voie lactée dans nos pays, on voit très très bien en été une immense écharpe lumineuse. Et quand vous êtes dans l'hémisphère austral, bah, en plus de cette Voie lactée, vous avez l'impression de voir deux nuages qui se baladent dans le ciel. Et en fin de compte, ce sont les nuages de Magellan, les petites galaxies, qui sont beaucoup plus proches que la galaxie d'Andromède, car ils sont à peu près entre 150 000 et 200 000 années-lumière. Comparé par rapport aux 2,4 millions d'années-lumière d'Andromède, c'est quand même beaucoup plus près. Mais par contre, ils sont beaucoup plus petits que notre Voie lactée ou la galaxie d'Andromède. Bon, c'est à peu près 30 000 années-lumière pour le grand nuage de Magellan en diamètre, et puis 16 000 pour le petit nuage de Magellan. Donc là, c'est beaucoup plus petit. Alors ça, c'est le groupe local, et plus on s'éloigne, plus on va rencontrer d'amas. Par exemple, si on s'éloigne jusqu'à 50 millions d'années-lumière, on va encore rencontrer un paquet d'amas, et en particulier l'amas de la Vierge. Donc là, c'est très connu des astronomes, parce que quand vous observez, par exemple, dans la constellation de la Vierge, ce fameux amas, il y a énormément d'étoiles, énormément de galaxies. Là, je fais un lapsus révélateur.
C'est pareil, mais sauf que les objets qu'on voit sont des galaxies.
Oui. Voilà. Mais pour cet amas de la Vierge, par exemple, pour faire une petite comparaison avec le groupe local, Dans un même diamètre, il y a à peu près 20 fois plus de galaxies. Donc là, c'est encore beaucoup plus prodigieux, disons, au point de vue taille. C'est vraiment impressionnant. Et cet amas de la Vierge, c'est en fin de compte le centre d'un amas qui est beaucoup plus grand, qu'on appelle le super amas local, dont fait partie le groupe local. Et plus on s'éloigne, et plus on va rencontrer de galaxies, et plus on va rencontrer d'amas de galaxies, et là, c'est disons, infini.
Alors, ça n'a pas toujours été comme ça, hein, Frédéric, parce que on a mis très longtemps, enfin, on a mis quelques siècles à se rendre compte que les étoiles n'étaient pas réparties sur une sphère uniformément, mais qu'elles se regroupaient, que les étoiles qu'on voyait les plus proches dans notre ciel faisaient partie elles-mêmes d'un groupement qui était une galaxie. Alors, avant que l'on sache toute cette structure de l'univers, hein, Christian, comment ça s'est passé un petit peu? Comment est-ce qu'on est arrivé à ces notions de galaxies?
Alors tout d'abord, c'est Galilée qui a observé la Voie lactée avec une lunette astronomique en 1610, et donc il a vu que c'était un amas d'étoiles, parce qu'auparavant, certains avaient bien pensé que la Voie lactée était constituée d'étoiles, mais on ne voit pas vraiment ces étoiles à l'œil nu, et donc c'était qu'une théorie. Vers la même époque, un autre Italien, Giordano Bruno, a émis l'hypothèse que les étoiles sont d'autres soleils avec des planètes, mais qu'elles sont dispersées dans l'espace infini. Donc il y avait une infinité d'étoiles dans un espace infini.
Giordano Bruno, c'est lui qui a été brûlé pour ses idées, je crois. Enfin, une partie de ses idées.
Tout à fait, oui. À cause de l'idée de l'univers infini qui ne plaisait pas à l'Église. Par la suite, Isaac Newton, un Anglais cette fois-ci, s'est rendu compte que les étoiles, elles s'attirent les unes les autres, et donc s'il y a une infinité d'étoiles dans l'univers, elles devraient tomber les unes sur les autres, et donc l'univers devrait s'effondrer, il ne pourrait pas être stable. Alors pour quelle solution trouver à ce problème?
On constate qu'il est stable, donc il faut bien l'expliquer, alors qu'il devrait s'effondrer.
Voilà, exactement. C'est un Allemand, un philosophe, Emmanuel Kant, qui n'était pas astronome professionnel, hein, en 1755.
Amateur,
oui. Il a imaginé que les étoiles sont en révolution autour d'un centre commun. Il a fait l'analogie avec notre système solaire. Dans notre système solaire, il y a des planètes en révolution autour du Soleil, et les forces centrifuges des planètes les empêchent de tomber sur le Soleil. Eh bien là, c'est la même chose, les étoiles sont en révolution autour d'un centre, et donc leurs forces centrifuges les empêchent de tomber les unes sur les autres. Alors il parle des étoiles que l'on voit dans notre ciel, et elles constituent donc un amas, hein, une galaxie, mais il n'emploie pas ce mot bien sûr. Et cette galaxie, nous sommes à l'intérieur et nous la voyons par la tranche Cette tranche, c'est la Voie lactée. Par contre, on ne voit pas, nous, les étoiles bouger parce que la galaxie est immense et les mouvements de ces étoiles sont trop longs pour qu'on puisse les distinguer à l'échelle de la vie humaine et même à l'échelle de plusieurs centaines d'années.
En fait, elles vont très vite, les étoiles, mais simplement, elles sont tellement loin qu'on a l'impression qu'elles bougent pratiquement pas.
Voilà. En 2000 ans, depuis les observations de Ptolémée, on n'avait pas vu d'étoiles changer de position dans le ciel. Mais Emmanuel Kant va plus loin. Il y a dans l'univers d'autres systèmes analogues aux nôtres. Ce sont des autres nébuleuses que l'on voit sous forme un peu lenticulaire, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Mais il imagine aussi que ces systèmes ne sont pas immobiles dans l'espace. C'est exactement le même problème qu'avec les étoiles. Il faut qu'elles bougent, sinon l'univers entier s'effondrerait. Donc il imagine que tous ces systèmes d'étoiles, toutes ces galaxies sont en révolution autour d'un centre unique, un centre universel. Son univers est dynamique, il n'est pas stable. Et pour passer de la théorie, puisque Kant c'est de la théorie, à la pratique, c'est William Herschel, un Allemand qui a immigré en Angleterre vers les années 1780.
Je peux dire un petit mot sur William, il s'appelait Wilhelm, et il a été williamisé, on pourrait dire, par les Anglais. Et en fait, c'était un musicien, c'était un organiste. Et il a même été même compositeur, il a composé des musiques pour orgue, un peu dans le style de Bach. Et d'ailleurs, un astronome professionnel qui s'appelle Dominique Proust a enregistré les œuvres de Herschel sur CD. On l'a perçu d'ailleurs dans nos conférences. C'était une petite parenthèse, mais c'est intéressant de voir que le monde des astronomes amateurs était tellement divers.
Oui, alors William Herschel, c'était vraiment un praticien. Il a fabriqué ses télescopes et il avait entrepris de compter les étoiles que l'on voit dans le ciel. Il avait aussi entrepris de déterminer la forme de notre galaxie, bien que ce mot n'ait jamais employé. Ce mot apparaît plus tard. Donc il a essayé de mesurer la taille de notre galaxie. Il lui avait trouvé dans un premier temps 7000 années-lumière de diamètre pour une épaisseur de 3000 années-lumière. Alors, j'ai converti en unité moderne. On n'employait pas cette unité à l'époque.
On parlait en lieu, je crois.
Oui, pas en kilomètres, non, pardon. En lieu, plutôt. Oui.
En kilolieu.
En kilolieu. Et il a revu ses mesures et il a porté ses dimensions à 20 000 et 4 000 années-lumière. Donc, c'était immense par rapport aux dimensions que l'on attribuait au système solaire, par exemple. Et c'est dans les années 1920 qu'Edwin Hubble, un Américain cette fois, avec le télescope du mont Wilson, a photographié des étoiles dans la galaxie d'Andromède, que l'on appelait nébuleuse d'Andromède, mais il faut bien parler de galaxie.
Oui, parce que, un petit mot encore, mon père avait un dictionnaire qui s'appelait « Tout en un ». Et dedans, il y avait, donc c'était, on parlait d'étoiles, d'astronomie, et on parlait des nébuleuses spirales, et des nébuleuses, on parlait des nébuleuses ordinaires, qui sont les nuages de gaz, ce qu'on appelle aujourd'hui nébuleuses, et les galaxies, on les appelait des nébuleuses spirales, à l'époque. Ce que Frédéric...
Vrai que sur des anciens bouquins, on parle de nébuleuses d'Andromède.
C'est
bel et bien une galaxie.
Voilà, parce que ça ressemble,
Oui, parce que le débat n'a été tranché, justement, que dans les années 1920, puisque aucun télescope, auparavant, ne permettait de résoudre une nébuleuse en étoile. Et donc, Edwin Hubble a élaboré aussi la première classification des galaxies, qui est grosso modo encore en vigueur aujourd'hui, puisque 98% des galaxies connues sont répertoriées dans cette classification. Voilà pour l'histoire, grosso modo, des galaxies.
Merci beaucoup, Christian. Alors, bien sûr, sans prononcer la conférence de François Hamer, on va quand même dire un petit peu de ce qui se passe dans cet univers lointain et puis pourquoi il faut regarder loin si on veut remonter le temps. On peut peut-être le rappeler, ça, Frédéric.
C'est intéressant, disons, d'observer l'univers, disons, dans sa formation, tout début, à sa naissance, car c'est peut-être en l'observant, disons, au tout début, qu'on va pouvoir comprendre comment se sont formées les premières galaxies, comment elles ont évolué et pourquoi les galaxies sont ce qu'elles sont maintenant. Donc c'est
Oui, parce qu'on peut peut-être juste rappeler que quand on regarde, à, par exemple, à 2 millions d'années-lumière, comme pour la galaxie d'Andromède, en fait, on regarde, on la voit telle qu'elle était il y a 2 millions d'années, voilà. Puisque la lumière a mis ce temps-là pour venir jusqu'à nous. Voilà. Et si on regarde à 15 milliards d'années-lumière, on va voir ce qui s'est passé il y a 15 milliards d'années.
Il y a 15 milliards d'années, voilà. Un peu comme le Soleil, si le Soleil explosait...
On le saurait dans 8 minutes.
On le saurait dans 8 minutes. Ça serait un peu angoissant.
On aurait tout le temps de faire ses valises.
En 8 minutes. Oui. C'est sûr.
La brosse à dents. Oui, alors ça sera donc ça la conférence. En fait, François Hammer va nous parler de cet univers lointain. Et on a beaucoup d'hypothèses, vous le savez, sur la formation de l'univers. Et ça, c'est quelque chose qui est encore largement l'objet de débats. Il y a eu l'histoire du Big Bang. Alors, c'est plus ou moins remanié. On met pas mal de choses en débat, je dirais, pas forcément en cause. Hein. Mais justement, on a observé. Et c'est peut-être récent parce qu'il a fallu attendre ces très grands télescopes pour arriver à observer cet univers lointain.
Ces grands télescopes, oui, comme le VLT dont tu parlais tout à l'heure, ou même le télescope spatial Hubble, ou d'autres satellites comme le satellite Kobe. Mais ça, il nous en parlera sans doute lors de la conférence.
Voilà, on vous rappellera tout à l'heure donc de venir vendredi prochain, le 10 décembre, à la Salle Bretagne pour entendre François Hammer sur les galaxies de l'univers lointain. Alors, dans cette émission Pulsan de la Société d'Astronomie de Nantes, voici venue l'heure de notre séquence Actu Astro. Alors Frédéric, on va pas te lâcher comme ça, après tes galaxies, hein, tu vas nous dire ce qu'il y a dans le ciel en ce moment, mais ce qu'il y a vraiment dans le ciel. Hein. Nous, c'est de l'astronomie.
Hein. Vraiment observable.
Oui.
Voilà. Bon, on approche de la saison d'hiver, du ciel d'hiver. Bon, souvent, c'est peut-être pas toujours propice aux sorties nocturnes, car il fait pas très très chaud à cette époque, mais... On a quand même l'un des plus beaux ciels de l'année, avec des constellations remarquables et beaucoup d'étoiles brillantes. Donc ça, c'est un peu vrai paradis pour le débutant et qui va pouvoir se repérer dans le ciel très 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 rapidement. Je pense tout particulièrement à une constellation très fameuse, qui est la constellation d'Orion, un grand quadrilatère avec trois étoiles alignées en plein milieu, qui sont les trois rois, et là, sa fameuse nébuleuse d'Orion, là, qu'on peut justement observer à l'œil nu, juste en dessous de ces trois étoiles alignées.
Oui, moi, la première fois que j'ai vu ça, je croyais que mes jumelles étaient ça. Alors j'étais là, j'essuyais le verre. En fait, c'était la nébuleuse d'Orion. Ah, ça m'a beaucoup impressionné que je puisse voir ça, moi, alors que j'ai vu ça dans les livres, quoi.
C'est vrai que c'est quelque chose de magnifique.
Et, il faut dire aussi, beaucoup de gens connaissent la Grande Ourse et la Petite Ourse des constellations comme ça, mais Orion, il faut qu'ils la connaissent. Alors, où est-ce qu'on la voit? Dans quel coin du ciel?
Non, Orion,
là, ça tourne, hein.
Ça tourne. Ça dépend. Si vous regardez à 18h, elle sera même pas levée. Si vous regardez à minuit, elle sera quasiment plein sud. Par contre, si vous regardez à 5h le lendemain matin, elle sera quasiment à l'ouest. Elle aura fait son tour du ciel, bien qu'on, disons, qu'on ne soit pas complètement en hiver. Mais c'est...
Alors, pour les amoureux de la littérature, Orion est cité par Blaise Cendrars. Il met sa main dans le ciel et puis ça fait juste le diamètre apparent d'Orion. Ça vous donne une idée.
Intéressante anecdote. Alors, bien sûr, il faut aussi parler, avec ces constellations, parler des deux principales planètes qui sont observables en ce moment, les planètes Jupiter et Saturne. Donc Jupiter, elle n'est pas ratable dans le ciel du soir
louper,
en
non.
ce moment. C'est l'astre le plus brillant, observable dès le début de la nuit, disons, sur l'horizon sud-est. Et puis elle passe en milieu de nuit plein sud. Donc là, c'est l'astre le plus brillant. Vous ne pouvez pas la rater. Vous êtes sûr que c'est Jupiter. Alors qu'est-ce qui est remarquable sur Jupiter? C'est premièrement d'observer ses satellites. Et oui, nous on a une lune, Jupiter en a une trentaine, mais
on ne voit pas les 30 quand même.
On voit pas les 30, malheureusement.
On en voit 4, je crois.
On en voit 4 qui sont des satellites galiléens. On les appelle galiléens car c'est Galilée le premier qui les a observés avec sa petite
lunette. Il paraît que c'est pas tout à fait lui, mais c'est pas grave. On les appelle comme ça quand même. Allez.
On les appelle comme ça. Dans le jargon de l'amateur, c'est les satellites galiléens. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est de les voir tourner autour de la planète. Des fois, ils passent derrière, des fois, ils passent devant. On arrive même avec des petits télescopes de voir l'ombre du satellite projeté sur la planète se balader sur l'ensemble du disque. Alors ça, c'est...
Ouais.
C'est très joli à voir.
Il s'appelle Io, Europe, Ganymède et Callisto.
Et Callisto, voilà.
C'est pour ceux qui veulent noter les noms.
Voilà. Et ce qui est aussi remarquable, c'est le disque de Jupiter, parce que là, on peut voir des bandes nuageuses, en particulier deux bandes équatoriales qui sont très très marquées. La première fois que vous regardez, disons, Jupiter avec un télescope, donc ça, c'est très impressionnant. Il arrive même qu'on voit la fameuse tache rouge, là, ce grand cyclone qui pourrait englober près de 3 fois le diamètre de la Terre, ouais, sur une de ces bandes équatoriales. Donc ça,
on rappelle le diamètre de Jupiter, tu l'as peut-être dit.
Le diamètre de Jupiter, bon, c'est à peu près 140 000 km.
10 fois la Terre, à peu près.
C'est 10 fois la Terre. Ouais. Enfin, c'est vraiment une grosse planète. Alors, elle est accompagnée, pas très loin dans le ciel, disons sa consœur, Saturne, la deuxième planète la plus grosse du système solaire, avec à peu près 120 000 km de diamètre. Et comment repérer Saturne ? Tout simplement, vous partez de Jupiter, et puis l'astre le plus brillant, disons, à côté de Jupiter, un peu à l'est, une dizaine de degrés à l'est, c'est Saturne.
Alors Jupiter est très brillante et blanche, pratiquement, c'est une grosse étoile, hein. Mais bon, ça ressemble, c'est tellement gros que...
C'est un lapsus révélateur.
C'est tout à fait, mais c'est parce que ça peut paraître pour une étoile, voilà. Mais en fait, c'est une grosse planète. Et Jupiter, à côté, est un petit peu jaune. Hein, c'est jaune, pas comme clarté.
Sûr, ouais. Ouais. Mais bon, ce qui reste impressionnant sur Saturne, c'est bien sûr l'observation de ses anneaux. Avec n'importe quelle petite lunette, petit télescope, là, c'est vraiment un grand plaisir, quoi.
Et on peut rappeler que Jupiter est à 800 millions de kilomètres du Soleil et Saturne à 1 milliard 500 millions, donc 2 fois plus loin, en gros. Hein.
Voilà, donc ça, c'est les astres à observer. Il y a un événement ce mois-ci, c'est l'occultation de Mars par la Lune. Dire que la Lune va passer dans le ciel devant Mars. On va voir disparaître, donc ça va se produire le dimanche 12 décembre, donc dans moins d'une semaine. On va voir disparaître Mars à peu près vers 20h15, heure nantaise, disons. On va voir disparaître Mars sur le côté obscur de la Lune. Et normalement...
Le côté obscur.
Voilà, le côté obscur. Je fais aucune allusion à des films récents. Mais le côté obscur, c'est tout simplement le bord non éclairé de la Lune. Et donc Mars va disparaître à peu près vers 20h15 et devrait réapparaître vers 21h30 de l'autre côté de la Lune. Je dis devrait parce que malheureusement, la Lune sera déjà couchée à cette heure-là. Donc... sur Nantes, on verra, disons, que la disparition. Alors, si vous voulez observer ce phénomène, retenez la date, dimanche 12 décembre. Préparez-vous un peu avant pour voir justement Mars se rapprocher de la Lune. Et pour finir, profitez d'un site ayant un horizon sud-ouest bien dégagé pour profiter au maximum de l'événement. Voilà pour ces petites nouvelles astro. Maintenant, profitez-en et puis observez ces événements, observez Jupiter, observez Saturne. Le ciel d'hiver est vraiment très très riche.
Et on vous parlera pas des Léonides, hein, parce qu'il a plu. Hein.
Voilà, il a plu de l'eau, mais
il y a une pluie, mais c'était de l'eau.
C'était de l'eau.
Alors merci Frédéric. Alors passons maintenant aux nouvelles du monde, le monde astronomique bien sûr, avec Stéphane Legard.
Alors l'actualité astronomique, c'est tout d'abord la découverte, lundi dernier, de 6 nouvelles planètes en dehors du système solaire. Observées depuis l'observatoire Keck de Hawaï, donc là où il y a le plus gros télescope au monde, ces planètes, distantes de la Terre de 65 à 192 années-lumière, et détectées par le mouvement qu'elles font subir à leur Soleil, tournent autour d'étoiles similaires en âge, en taille et en luminosité à notre Soleil. Elles sont situées donc dans une zone dite habitable, c'est-à-dire ni trop près ni trop loin de leur Soleil. Et elles sont constituées, comme Jupiter, d'hélium et d'hydrogène, et ont une masse à peu près similaire ou plusieurs fois supérieure à celle-ci. Ça porte donc à 28 le nombre de planètes découvertes. En effet, en l'espace de 15 jours, des astronomes ont réalisé 2 exploits majeurs. Tout d'abord, détecter le passage d'une planète par son passage devant son étoile. On pourrait dire une sorte de mini-éclipse finalement d'une planète, d'une étoile par une planète. Deuxième chose, de capter directement la lumière réfléchie par une planète en orbite autour de son étoile. Cette deuxième technique, donc unique, a permis notamment de déterminer la composition de cette nouvelle planète. Elle serait constituée de magnésium, de silicium et d'oxygène. Enfin, donc de trajectoire nettement elliptique, contrairement aux autres planètes de notre système solaire, ces nouvelles venues bousculent finalement nos idées sur le cosmos et sur l'existence de systèmes planétaires qui peuvent éventuellement accueillir la vie. L'actualité astronomique, c'est aussi donc une actualité assez chaude. L'atterrissage de Mars Polar Lander sur le sol de la planète rouge.
Une actualité chaude quand ça atterrit au pôle nord de Mars, oui, pourquoi pas.
Si on veut. Alors après 11 mois de voyage à une vitesse de plus de 4800 mètres à la seconde, la sonde américaine qui devait se poser vendredi soir ne répond toujours pas aux appels de la NASA. Celle-ci voit donc les chances s'amenuiser d'heure en heure et invoque déjà plusieurs raisons d'échec. Premièrement, un dysfonctionnement des moteurs à hydrazine utilisés pour le freinage de la sonde. Ces nouveaux moteurs, d'une plus grande simplicité de conception que ceux qui étaient utilisés par exemple pour aller sur la Lune, sont aussi beaucoup plus instables que les précédents. La NASA s'est en effet orientée par manque de financement vers des missions, je cite donc la NASA, plus rapides, moins coûteuses, plus efficaces. Deuxième raison d'échec, ça peut être le site d'atterrissage choisi qui s'est révélé beaucoup plus accidenté que prévu. Mais il était trop tard, donc le 2 décembre, lorsque les ingénieurs de la NASA s'en sont aperçus pour modifier le plan de vol. Quoi qu'il en soit, donc la NASA se fixe jusqu'à jeudi pour établir le contact avec Mars Polar Lander. Si c'était le cas, donc chose très probable à l'heure qu'il est, on pourrait espérer entendre les vents et les tempêtes sur Mars grâce aux micros embarqués. Les sensations fortes sont quand même à exclure.
On va faire les vents, hein.
Alors ce ne sera pas tout à fait ça, parce que l'atmosphère de Mars est 100 fois moins dense que celle de la Terre, donc la symphonie, si elle avait lieu, se ferait sur un mode grave et pianissimo.
Oh,
c'est joli ça. C'est beau, poésie, c'est beau. Hein. Enfin, après Mars, autour de Jupiter et de ses satellites, de nous révéler leurs secrets grâce à Galiléo. Donc la sonde américaine, lancée donc par la NASA toujours le 10 octobre 89, termine son périple par l'étude de Io, l'un des 4 satellites galiléens de Jupiter dont on a parlé tout à l'heure. Alors après un voyage de plus de 620 millions de kilomètres et un quasi-rasmode sur Io, alors quasi-rasmode ça veut dire quand même une altitude de 300 kilomètres, Galiléo commence à nous dévoiler l'ambiance sur ce satellite aux dimensions fort proches de la Lune. Contrairement donc au calme lunaire, c'est plutôt un univers dantesque que nous révèle la sonde. On vient en effet d'apprendre que Io est un astre hyperactif, avec notamment plus de 100 volcans en éruption et des coulées de lave gigantesques. Il faudra cependant plusieurs semaines pour que toutes les informations soient transmises à la Terre.
Dommage que Maurice Kraft soit mort, parce que je crois qu'il aurait aimé aller sur Io. Il nous l'a dit et c'était son astre fétiche.
Ah ouais. Ouais. Pour terminer donc cette revue de l'actualité astronomique, un petit message aux internautes en quête d'un écran de veille un peu original. Connectez-vous sur le site du programme SETI, donc je rappelle, recherche d'une intelligence extraterrestre.
Oui, search for extraterrestrial, machin truc.
Et vous pourriez à ce moment-là rejoindre les à peu près 1 300 000 personnes qui, sur la planète, participent au traitement des données recueillies par le radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico, dans l'espoir de détecter un quelconque signe de civilisation. Même si la probabilité est plus que mince, notamment donc à cause de la courte plage de fréquences sondées, vous serez peut-être le premier à détecter un message du type ET téléphone maison. Bref, toute cette actualité nous laisse donc penser que le ciel bouge et nos idées avec.
Oh, bravo, quelle belle conclusion. Mon cher Stéphane, alors nous espérons au cours de cette séquence actu vous donner effectivement non pas des actualités réchauffées, hein, mais vraiment les dernières actualités, même du jour, puisque je crois que Stéphane, tu as exploré, tu as sillonné Internet, tu as surfé pour recueillir.
Jusqu'à avant de venir, j'étais webisé.
Il est où? Voilà, c'est. On essaiera de vous donner cela, comme on dit, en temps réel. Alors, dernière séquence de Pulsan, l'émission de la SAN. C'est la vie de la SAN. On va vous présenter un petit peu la société d'astronomie de Nantes, hein. Alors, son histoire, très brièvement, bien sûr, et ses activités. Alors la SAN, en quelques mots, la SAN, c'est une centaine de membres, une dizaine de commissions qui œuvrent dans les principaux domaines d'activité de la SAN, une bibliothèque de plus de 700 ouvrages, 300 cassettes audio et vidéo, un cycle annuel de conférences publiques à Nantes, des observations du ciel et des missions dans les grands observatoires, des expéditions comme l'éclipse, des expositions, des publications, ce qu'on appelle les fascicules pédagogiques, des projets comme celui d'un observatoire populaire, enfin un site internet dont on vous donnera l'adresse. Alors moi, ce que je la donne tout de suite parce que je risque d'oublier, hein. Alors c'est toujours http, acheter quelque chose, http://www. Après, c'est très facile, hein. C'est san-fr.com. Hein, ça c'est voilà. Rien de plus simple. Enfin, c'est l'une des premières sociétés d'astronomie de notre pays, de par son importance numérique et surtout son dynamisme. Alors on ne fait pas d'autosatisfaction, on va essayer de vous le prouver. Ah, j'ai oublié de dire que depuis 1991, effectivement, l'ASAN organise un congrès qui s'appelle les Rencontres européennes. C'est né en 91, on en est à la 4e édition, celle de l'an 2000. Alors c'est aussi l'une des plus anciennes sociétés d'astronomie et on va faire un petit brin d'histoire. Alors l'ASAN a été fondée en 1971 sous sa forme actuelle d'association loi 1901. Mais elle est née véritablement à la fin du siècle dernier dans le sillage de la fameuse Société astronomique de France fondée par l'illustre astronome Camille Flammarion, surnommé Camomille Flammarion. Qui fut d'ailleurs le parrain de ces jeunes sociétés d'astronomie nées en province comme la Société de Bordeaux, de Marseille, etc. Et l'ASAN a ainsi, si on peut dire, ses lettres de noblesse. D'ailleurs, elle va fêter l'année prochaine ses 30 ans. J'ai oublié de dire qu'elle était aussi labellisée Jeunesse et Sport, Société scientifique d'éducation populaire. Alors officiellement, elle fut créée pourquoi, la Société d'astronomie de Nantes? Eh bien, en 1971, dans le but de réunir les personnes qui s'intéressent à l'astronomie, à l'astrophysique et à l'étude des phénomènes célestes. Alors là, je reprends un petit peu les statuts, mais c'est un fait un peu administratif, mais c'est important. On dit aussi que c'est pour faciliter à ses membres l'étude et la pratique de l'astronomie, et enfin promouvoir la diffusion de ces sciences dans le public. Donc on est tout à fait dans notre vocation, n'est-ce pas, lorsqu'on va se tourner vers le public. Alors dès sa fondation, la Société d'astronomie de Nantes fut très active et œuvra afin de concilier ce double objectif en menant de front la pratique de l'astronomie et l'action pédagogique et culturelle afin de partager, de propager l'amour des sciences et sa passion de l'astronomie. Alors, les activités internes, alors on peut les citer, bien sûr, mais je les citerai pas dans le détail parce que dans les émissions ultérieures, nous ferons un zoom sur à chaque fois sur un des domaines d'activité. Et ça sera intéressant parce qu'on vous donnera des détails sur tout ce qui se passe dans l'observation, dans les expositions, etc. Alors, parmi les activités que la Société d'astronomie de Nantes propose à ses membres, on va commencer bien sûr par l'observation du ciel. Alors là, Frédéric, je ne voudrais pas empiéter sur ton domaine, mais je vais très très rapidement résumé, synthétisé. Il y a de l'initiation, il y a des projets spécialisés, j'en dis pas plus. Et cette activité d'astronomie amateur se prolonge par des missions dans les observatoires, la participation à des rencontres. Hein. Alors, on fait des sorties, on regarde le ciel, etc., avec des télescopes, bien sûr, mais aussi on s'initie aux constellations.
Ouais. Hein. À l'œil nu, tout simplement.
Voilà, à l'œil nu, tout bêtement, le plus bel instrument hein, qui fait que 6 mm, hein, faut le dire.
Mais ça reste l'œil quand même.
Ouais. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important. Il y a un atelier de fabrication de télescopes qui a sorti plusieurs centaines de télescopes depuis 30 ans de... C'est l'atelier de notre président d'honneur, Monsieur Lassor, on va le citer parce que quand même il le mérite. Alors, il y a aussi une bibliothèque, enfin, bref, il y a plein de choses, on trouve plein de choses à la Société d'astronomie, mais ce qu'on trouve surtout, c'est une ambiance, bien sûr, très conviviale, un petit esprit frondeur. Et là, effectivement, comme on dit maintenant, on revisite les données de la science d'une manière un petit peu originale qui décoiffe quelquefois. Hein, mais on n'est pas très scolaire. On a un système solaire, mais non, on n'est pas scolaire. Bon. Alors parallèlement, dans la grande tradition de l'astronomie d'amateur, la Société d'astronomie de Nantes se tourna vers le public et elle organisa tout de suite, dès sa naissance en 1971, des conférences en ville et pour lesquelles elle invita les plus grandes personnalités du monde de l'astronomie et de l'astronautique. Alors je vous en cite quelques-unes comme ça, vous les trouverez sur notre site web, Agnès Acker. Il y a des gens que vous connaissez peut-être pas, mais pour les astronomes, certains sont très très connus. Il y a Jean Audouze, Patrick Baudry, c'était un des héros de l'espace. André Braïc qui a sorti un livre qui est un véritable best-seller. Alors André Braïc en conférence, ça décoiffe aussi. Catherine Césarski, Suzy Collin, vous voyez que les femmes sont là aussi. Vincent Coudet du Foresto, Paul Couteau, Audouin Dolphus, qui était en ballon à 8000 mètres pour aller voir s'il y avait de la vapeur d'eau sur Mars. Et il s'est approché. Hein. Il y a eu Jacques Gapaillard qui a écrit « Pourtant elle tourne, la Terre ». Jean-François Gauthier qui a écrit un livre qui s'appelle « L'univers existe-t-il ? Réponse dans le bouquin ». Étienne Klein, Pierre Léna, le coordonnateur du projet VLT, Laurent Nautal, ah oui, le grand Laurent Nautal, c'est quelqu'un lui, Hubert Reeves, qui est là, à notre tableau de chasse, Evry Schatzmann, le père du neutrino. Alors bien sûr, parmi les autres fleurons de cette action pédagogique, à part les conférences, hein, il faut y venir aux conférences parce que c'est là que ça se passe, mais parmi les autres fleurons, on peut citer les expositions. Alors on a une belle exposition sur le système solaire actuellement avec plus de 30 ou 40 panneaux, une grande maquette, qui est plus grande d'ailleurs que le système solaire original, et un grand projet d'observatoire populaire. Alors bien sûr, en 30 ans, le domaine d'action de la SAN s'est considérablement étendu. La SAN jouit d'une notoriété actuellement à la fois dans le riche paysage culturel nantais et auprès des astronomes amateurs. Et également, elle a acquis une notoriété dans le monde de l'astronomie professionnelle. Alors voilà, je crois que on pourrait dire beaucoup de choses de la SAN, mais peut-être que, bon, j'ai pas été très très complet, j'ai survolé des choses, est-ce que j'ai peut-être oublié des aspects avant de conclure cette émission, mon cher Frédéric, non?
Peut-être dire que, par rapport aux gens qui composent la SAN, qu'il y a aussi des personnes de tout âge, ça c'est très important.
Ah oui, c'est très important.
C'est très important.
Non, il faut dire que la notion d'âge chez nous n'a aucune importance
pas, ouais.
À l'échelle astronomique.
À l'échelle de l'univers, c'est rien du tout. Et peut-être aussi dire que il n'y a pas besoin d'avoir, disons, un niveau prérequis pour faire de l'astronomie.
Oui, c'est important.
Ça, c'est aussi important. On n'est pas, disons, une élite de l'astronomie.
Et tu sais, Frédéric, pourquoi ça s'appelle la Société d'astronomie? Moi, on m'a fait la réflexion, mais on n'osait pas venir parce que ça s'appelle Société. Alors, il y en a qui pensent que c'est une société commerciale, d'autres qui pensent que c'est des gens entre des vieilles barbes. Donc à part moi, il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs. Mais en fait, ça s'appelle société dans la tradition des sociétés d'astronomie. C'est justement pour montrer qu'elle est ouverte à tous. Alors qu'il y en a qui croient que quand ils appellent ça club d'astronomie, ça fait jeune et donc c'est ouvert à tous. Au contraire, un club, par définition, c'est fermé. Donc ça, nous on parle français. Donc nous, on a dit société. Et ça veut dire que tout le monde peut venir, c'est dans notre tradition. Mais il faut la condition, c'est de s'intéresser à l'astronomie. Hein, dirais que tout le monde peut venir, ça ne veut pas dire n'importe qui, d'accord.
Mais disons qu'il y en a pour tous les niveaux, quoi. Du
ça
débutant.
L'astronomie, ça peut être de la poésie tout court, hein. C'est pas obligatoirement être un scientifique.
Absolument. Voilà. Tu as raison, Olivier, de préciser cela. Oui, Benjamin.
D'ailleurs, on trouve toutes les compétences à la SAN. Il y a aussi bien des littéraires que des scientifiques. C'est ça qui est très intéressant dans une association comme celle-là.
Tu as raison de
rien comme Christian.
Voilà. Mais attention, tu as raison de le dire. Mais je crois qu'il faut bannir ces barrières-là. Ça, c'est récent, ces spécialités. Parce que Newton, on se posait pas la question à l'époque. Suis-je philosophe ou suis-je scientifique? D'ailleurs, à l'époque, ça s'appelle toujours, pour ceux qui connaissent les étudiants, il y a un PhD. Ça veut dire le philosophique. Donc, on est docteur en philosophie aux États-Unis. Le doctorat, quand on passe un doctorat en sciences, ça s'appelle le doctorat en philosophie. Et Christian Scotta, s'il était là, il pourrait nous dire finalement que Newton, il a écrit des principes mathématiques de la philosophie naturelle. Et c'est quoi la philosophie naturelle? Qui c'est qui le sait, là?
L'école.
Ça s'appelle la physique. L'ancien nom de la physique. Hein, notre cher Stéphane, qui est professeur de physique.
Et en fait, physique, ça a la même origine que science naturelle, puisque ça veut dire en grec naître.
Eh ben, tu vois.
Du verbe naître, avec un N.
Voilà. Eh ben, moi qui n'ai fait ne grec, ne latin, comme disait Molière, je viens d'apprendre quelque chose.
Moi, je rajouterais aussi, pour parler de la SAN, que c'est un formidable lieu d'échange, parce qu'on ne peut pas faire de l'astronomie tout seul. Enfin, je pense, moi, qu'on ne peut pas faire
ça. On peut en faire, mais c'est un peu...
C'est vrai que c'est...
C'est comme si on pratique l'amour tout seul, n'est-ce pas?
Sans commentaire.
Je ne vous dirai pas le nom. Donc, la Société d'astronomie vous accueille. C'est une grande association, une grande société. Il faut nous rejoindre, hein, parce que vous serez étonnés. Ça, c'est très sympa. Alors, on va rappeler les coordonnées de la SAN pour ceux qui souhaitent nous rejoindre. La Société d'astronomie de Nantes, 35 boulevard Louis-Millet, 44-300 Nantes. Alors le boulevard Louis-Millet à Nantes, en fait le 35 c'est tout simplement la mairie de Doulon.
Hein, on est facilement repérable car elle est sur une ligne de tram.
Et l'arrêt, ça,
l'arrêt s'appelle Mérite-Doulon.
Mais voilà, y a, et on ne peut pas faire plus simple. Hein. Je vous donne le téléphone quand même, hein, pour ceux qui ont le téléphone, et ceux qui font des signaux de fumée, on les verra quand même. Alors le 02 40 68 91 20. Donc le 68 91 20. Et le site internet, je l'ai dit, mais je le rappelle, c'est san-fr.com. Alors, pour conclure cette émission, je vais rappeler brièvement les acteurs de cette première émission, ceux qui ont préparé les différents sujets, qui ont parlé, qui ont dit bonsoir au micro. Vous avez reconnu Frédéric Brion, Olivier Fortineau, Stéphane Legard, Benjamin Massard, Christian Scotta et moi-même. Hein, moi, je suis jamais cité, alors c'est Daniel Berlin. Alors, ça tombe bien parce que je suis le dernier dans l'ordre alphabétique, et comme ça, je peux me citer en dernier. Voilà. À la technique, nous avons les deux espoirs de la SAN, virtuose du curseur, Cyril Bodinier et Raphaël Roussel. Et si c'était pas bon, l'émission, ben, ça sera de leur faute. Voilà. Alors, nous vous donnons rendez-vous. Ah, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire en direct. J'ai trouvé une date, mon cher Michel, mais vous rectifierez à alternante. Je vous propose le lundi 10 janvier 2000. Ça fait partie des choses que j'oublie. Pour la prochaine émission Pulsane sur les ondes d'alternante FM 98.1 à Nantes. Alors, 98.1, c'est facile. C'est 10 fois la constante de gravitation, hein, 9.81. Alors, 98.1, 10 newtons à Nantes et 10 newtons moins quelque chose, 91.0 à Trignac. Ça, c'est pour faire coucou à nos amis de Trignac qui ont fondé un club ou une société, que sais-je, d'astronomie à Trignac. Et puis, on va vous repasser peut-être le générique parce qu'il était très chouette. Et puis, on l'a un peu loupé. C'est Kitaro. Allez, à la prochaine émission. Pulsane, l'émission de la SAN, à la découverte de l'univers.